du message de ce matin est le suivant. Y a-t-il du pharisien en nous ? Y a-t-il du pharisien en nous ? Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Du temps de Jésus, la société religieuse juive était répartie essentiellement en trois groupes. Le premier de ces groupes était les Esséniens. C'était, le Nouveau Testament n'en parle pas, ils vivaient retirés dans le désert de Juda et ils pratiquaient un ascétisme extrêmement rigoureux. Deuxième catégorie, étaient les Sadducéens. C'était des hommes riches, influents, bien que moins nombreux que les pharisiens, et ils étaient à des positions en général clés dans la société. Et l'un de leurs points de doctrine était qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Et d'ailleurs, ils avaient la réputation d'accommoder la tradition et d'accommoder la loi comme cela leur plaisait. Et la troisième caste était celle des pharisiens, celle qui va nous intéresser ce matin. Les pharisiens étaient les plus nombreux, étaient les plus connus, étaient également extrêmement influents. Et littéralement, le terme pharisien signifie les séparés. C'était la secte la plus rigide, la partie la plus rigide de cette nébuleuse religieuse juive. Et leur doctrine était basée exclusivement sur le salut par l'accomplissement total de la loi. Pour être sauvés, pour eux, dans leur esprit, il était nécessaire d'accomplir la loi dans le moindre détail, mais également les traditions qui découlaient et qu'ils avaient créées, qu'ils avaient générées de manière à être sauvés. L'une des branches les plus connues, une des branches du pharisianisme, étaient les zélotes qui allaient même jusqu'à lapider ceux qui n'accomplissaient pas la loi. Bref, nous voyons que dans les évangiles, les pharisiens notamment ont été des adversaires de l'annonce de la grâce. Nous voyons qu'ils ont persécuté Jésus, nous voyons qu'ils ont été à l'origine de sa condamnation. Nous voyons dans les actes des apôtres que Paul a eu également maille à partir avec eux. Nous voyons à quel point ils ont essayé de freiner l'annonce de l'évangile et parfois ils ont pu y réussir. Et puis petit à petit, les églises se sont fondées et on se rend compte en lisant les épîtres que même s'il n'y avait plus de pharisiens au sens propre du terme dans les épîtres, dans les églises, il n'en restait pas moins que la mentalité des pharisiens pouvait demeurer. Nous le verrons tout à l'heure dans la troisième épître de Jean, lorsque l'apôtre écrit à Gaius et qui lui dit qu'il a écrit une petite lettre à Diotrephe, et nous verrons une des caractéristiques des pharisiens au travers de cet homme Diotrephe, qui était pourtant un homme influent dans une église et qui avait cette mentalité qui avait gangréné en quelque sorte la société et les églises au temps des apôtres. Et la question que je me pose finalement, nous sommes tout aussi humains que les contemporains du temps de Jésus. Nous avons deux pieds, deux jambes, deux bras, deux oreilles et un cœur qui peut être aussi malade que le leur. Et la question que je me pose est la suivante, y a-t-il une forme de déclinaison du pharisianisme, ce qui est un néologisme, dans notre vie, dans notre cœur aujourd'hui? Pour ce faire et pour le découvrir, il nous appartient de voir quelles étaient les caractéristiques des pharisiens et j'en ai retrouvé trois que je souhaite partager avec vous, si le temps nous permet. La première caractéristique des pharisiens, c'était le formalisme. Le formalisme dans leur quotidien, dans leur comportement. Lorsque ces hommes jeûnaient, Jésus nous dit que, ils prenaient une mine triste, ils prenaient une mine fatiguée, ils prenaient une mine décomposée, parce que c'était ainsi une manière de se valoriser devant les hommes. Formalisme dans l'exercice du culte également. Seule la lettre comptait, et l'esprit de la lettre n'avait aucune importance. La loi était la loi. Le sabbat était le sabbat. La tradition qu'ils avaient composée, qu'ils avaient édictée, avait valeur de loi. Bref, pour eux, l'individu ne comptait finalement qu'assez peu. Seul le texte comptait. Seules les pratiques comptaient. Seule la manière d'exercer le culte avait de l'importance. Il y avait un formalisme rigide. Et l'un des exemples les plus probants est ce que la coutume appelait le corban. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 2 à 6, il est écrit la chose suivante. « Tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. » Donc là, il fait mention de tradition. Il n'a pas fait mention de loi, hein, de tradition. « En effet, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Et vous, à cause de votre tradition, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Pourquoi ?» En effet, Dieu a dit « Respecte ton père et ta mère. » Il a dit aussi « Celui qui maudit son père et sa mère, il faut le faire mourir. » Mais vous, vous dites aux gens « Tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, je dois le donner à Dieu. Alors tu n'es plus obligé de respecter ton père. Ainsi, à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. » La parole de Dieu, commandement de Dieu, c'est « Honore ton père et ta mère. » Et la tradition que les pharisiens avaient édictée était la suivante. Si ton père et ta mère ont besoin de quelque chose, mais que ce quelque chose, tu l'as déjà consacré au temple, alors, ou tu le dois au temple, alors tu ne peux pas le donner à ton père et à ta mère. Et de ce fait, ils faisaient passer la tradition avant la loi. Ils faisaient passer la tradition avant l'individu. Ils faisaient passer la tradition avant même les commandements de Dieu. Et Jésus, ensuite, va enseigner la chose suivante. Il va leur annoncer que la grâce, elle est encore plus exigeante que la loi. Mes frères, mes sœurs, que dans notre cœur, nous n'oublions jamais ce commandement que Jésus a donné. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Paul de rajouter, et dans ce simple commandement, toute la loi est accomplie. Toute la loi est accomplie. De ce fait, ce qui doit régir nos pratiques, ce qui doit régir nos coutumes, nos traditions, nos pratiques, ce n'est pas le cadre, bien qu'il en faille. C'est l'amour. Et Jésus va expliquer plus loin que la grâce est bien plus exigeante que la loi et que si notre justice, la justice des contemporains ne surpasse pas la justice des pharisiens, alors ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Jésus va utiliser quatre exemples sur lesquels nous allons passer rapidement. Premier exemple, le meurtre et la colère. Matthieu chapitre 5 verset 22, vous avez entendu dire, etc., que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Alors que l'enseignement original, c'est celui qui a tué, etc. Vous connaissez ce passage. Jésus va dire, au-delà des actes, c'est le cœur qui compte. Au-delà des actes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est-à-dire qu'il est bien beau de condamner ceux qui tuent physiquement. Mais ce que Jésus enseigne, c'est qu'il y a des meurtres, il y a des blessures qui ne sont pas condamnées et pourtant qui violent le commandement qu'il donnera lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Second exemple, l'offrande et l'amitié fraternelle. Dans la suite, Matthieu chapitre 5, versets 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Quoi ? Culture juive, laissez mon offrande devant l'autel ? Mais c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'ô combien important ? Jésus dira, non, l'important c'est d'aller te réconcilier avec ton frère. L'acte ne sera spirituel qu'à partir du moment où tu auras fait cette démarche-là. Et Jésus va continuer à développer ensuite en parlant de la paix avec de la paix qui doit régner avant notre propre justice, avant le droit même. Si jamais nous avons un conflit, que nous allons devant les tribunaux, etc., nous devons d'abord nous mettre promptement en chemin pour revenir et faire la paix avec notre adversaire. Jésus parlera de l'adultère qui n'est pas simplement commis lorsque on le pratique, mais qui est commis lorsque on le mûrit dans notre esprit. Et donc, au travers de tous ces exemples, Jésus explique, c'est bien beau les pratiques. C'est bien beau la tradition. Et Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais au-delà de la pratique de la loi, il y a l'état du cœur. Au-delà de la pratique religieuse, au-delà du fait de venir dans une église, au-delà du fait d'accomplir des actes, il y a le pourquoi nous le faisons. Il y a ce qu'il y a derrière. Il y a tout notre état de cœur et toute notre manière de fonctionner. Jésus va venir dans une société qui n'est fondée que sur des apparences religieuses, mais qui n'en a pas la substance. Et il va générer un réveil dans les cœurs. As-tu conscience, mon frère, ma sœur ? Quelqu'un a-t-il conscience ce matin ? A-t-il sur le cœur que finalement sa vie n'est rythmée que par des traditions, enseignées par ses parents, enseignées par l'habitude ? Quelqu'un a-t-il sur le cœur que finalement toute sa foi repose sur un socle d'habitude ? Et non pas sur un socle de foi. De la même manière que Jésus est venu en Israël afin de réveiller son peuple et d'amener la grâce. Sachez bien une chose, c'est que Jésus est là ce matin pour réveiller à nouveau ton cœur, pour réveiller à nouveau ta vie et remplacer tout ce qui est pratique par quelque chose de vécu. Pour remplacer tout ce qui est religion par une foi véritable et authentique. Deuxième aspect du pharisianisme, c'est l'orgueil qui finalement n'est qu'une résultante de ce formalisme, qui n'est qu'une résultante du salut par les œuvres et du fait d'accomplir des œuvres. La pratique des œuvres, pour les œuvres, génère automatiquement une forme d'orgueil. Je fais, je fais, je fais. Et on finit par cette réflexion, qu'est-ce qu'il ferait si je n'étais pas là ? Ce sentiment d'être quelque part un petit peu indispensable, qu'est-ce qu'il ferait si je n'étais pas là ? Jésus dira qu'il faut se garder du levain des pharisiens. Et l'apôtre Paul décryptera dans la première aux Corinthiens, chapitre 5 et au verset 6, en disant, vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous connaissez cette fable de la fontaine, la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Je n'ai pas besoin de la lire, ça me fera gagner un peu de temps. Vous savez qu'on peut faire imploser notre foi ? À force de lever, à force de lever, ça peut exploser. La réponse de Jésus va être la suivante, on la trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, avec ce pharisien et avec ce publicain. L'un dira, je te loue, hein. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Aucune notion de péché pour lui. Il était infaillible, il se cachait derrière ses apparences, il se cachait derrière ses œuvres. Puis à côté, le publicain lui va dire, ce même publicain qu'il montrait du doigt, il va se tenir à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Deux attitudes complètement différentes. Une qui est enflée d'orgueil et l'autre qui est remplie d'humilité. C'est beau un soufflé, hein, un beau soufflé au fromage. Après la blanquette de veau, le soufflé au fromage. quand il sort du four, il est magnifique. Et par contre, piquez-le, ou alors laissez-le dehors un peu trop longtemps. Il n'y a plus rien dedans. Ça fait pchit. Allez, c'est ma période désagréable. J'espère que ma vie ne fera pas pchit devant Dieu. J'espère que ma vie ne fera pas pchit devant Dieu. Et que le beau soufflet qui est devant les hommes, comme l'était ce pharisien-là, il ne dégonflera pas dans l'éternité. Seigneur, donne-moi l'esprit de ce publicain. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Je te sers avant tout parce que tu es mon maître. Je te sers avant tout parce que tu as donné ma vie. Seigneur, je te sers avant tout parce que en toi, j'ai trouvé un ami extraordinaire. Parce que j'ai confiance en toi. J'avance avec toi. Et je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je sais que sans toi, je n'ai pas le mouvement, je n'ai pas l'être, je n'ai pas le vouloir, je n'ai pas le faire. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. On est moins enflé comme ça, on est peut-être moins vu, moins apparent. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes bien plus précieux avec une telle attitude. Et Jésus dira, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, en parlant du publicain. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et finalement, une telle attitude aboutit à des faits concrets. Et c'est là que nous arrivons sur Dieu au trèfle. Quelqu'un qui ressemble à un beau soufflet, il se comportera de la manière suivante. Troisième épître de Jean, chapitre 9, verset 10. Verset 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais dit au trèfle, qui aime être le premier. Premièrement, parmi eux ne nous reçoit point. Deuxièmement, c'est pourquoi si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Troisièmement, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Ici, on a un homme qui pourtant est né de nouveau. Oui, censé l'être. Et dans son cœur, il y a ces trois caractéristiques que l'on retrouve et qui sont la conséquence finalement d'une vie d'orgueil, d'une vie de souffler au fromage. C'est moins désagréable. Hein, d'accord? Comme ça, je ne me fâcherai qu'avec une simple partie de l'auditoire. Premièrement, aime à être le premier. Aime à être vu. Voilà. Un petit peu comme les pharisiens qui demandaient à être appelés rabbi, etc. Ils aimaient ça, qu'on les salue, etc. Il aime à être le premier. Deuxième caractéristique, il ne recevait point les apôtres. Et d'autres versions traduisent, il ne reçoit pas notre autorité. Il n'accepte pas notre autorité. Bref, l'insoumission. Et troisième attitude, quelqu'un d'inhospitalier. Et il souhaitait que l'église reste en vase clos. Et ne reçoive pas les visiteurs, et notamment les apôtres. Les conséquences de l'orgueil, les faits tangibles qui montrent que notre cœur n'est en fait qu'un soufflet et que notre vie chrétienne est un fait de soufflet. Quand je me renferme sur moi-même, quand je pense avoir la vérité absolue, quand je n'accepte pas l'enseignement des autres, et c'est valable pour moi, je me prêche à moi-même, comme à vous, que se passe-t-il ? Bien, c'est autant un signe d'orgueil en disant ben finalement, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien. Et là, j'ai l'esprit du pharisien qui est antinomique avec l'esprit de la grâce. Troisièmement, premier point, le formalisme. Second point, l'orgueil. Troisième point, ils imposaient des choses lourdes et pesantes. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, entre autres. Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir. Jésus ne va pas contre la loi. On le souligne encore une fois. Et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Version parole vivante. La loi de l'Éternel, la loi de Dieu, je le dis souvent, mais c'est bien de l'ancrer dans nos cœurs. Ce n'est pas une somme de contraintes, mais c'est une somme de protection. C'est un ensemble de protection. Je peux franchir, mais si je le fais, je sais que je me mets en danger. Je sais qu'il y a un risque pour mon corps, pour ma famille et même pour mon salut. Mais les pharisiens, avec leur tradition, venaient encore surcharger la vie du peuple, venaient encore la compliquer. Et Jésus prendra l'exemple de cette brebis le jour du sabbat et y posera la question, est-ce que l'un de vous qui perd une brebis le jour du sabbat, est-ce qu'il n'ira pas la chercher? Et là, par la suite, n'ayant pas de réponse, il va guérir cet homme à la main sèche. Bref, on s'aperçoit que les pharisiens annonçaient des choses qu'ils ne faisaient pas. Ils disaient et ne pratiquaient pas. Ça nous arrive? Je ne regarde personne. Je regarde mon pupitre et mes notes. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et vous imaginez ces paroles qui résonne dans la foule du temps de Jésus, cette foule qui était chargée par la loi, les pharisiens, mais qui était également chargée par les Romains, par les lois. Et tout d'un coup, Jésus élève cette parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et c'est extraordinaire parce qu'au XXIe siècle, eh bien cette parole résonne encore. On a pu enseigner des choses, on a pu être enseigné de certaines manières. On a pu être chargé, la vie a pu nous charger. On peut avoir un sac à dos rempli de cailloux et avancer avec. Mais les paroles de Jésus résonnent encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos du cœur, du repos de l'âme, un soulagement, une capacité à continuer à avancer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Les foules, écoutez ça. Les foules avaient soif de ça. Soif de soulagement, c'est pour cela qu'ils attendaient le Messie, ce Messie politique qui viendrait les libérer du joug du Romain. Mais Jésus annonce encore plus. Il annonce celui qui viendrait les libérer de leur incapacité à accomplir la loi. Je ne peux pas pratiquer la loi par mes propres forces. Je ne peux pas respecter toute la loi par mes propres forces. Alors ne parlons pas de la tradition. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix afin de me donner cette capacité à surmonter mes incapacités. Celui qui est menteur peut cesser de mentir par l'action du Saint-Esprit. Celui qui est voleur peut cesser de voler par l'action du Saint-Esprit. Celui qui trompe sa femme peut cesser et peut recommencer à avoir un couple force, stable, par l'action du Saint-Esprit en lui. Ce qui nous chargeait, cette loi qui nous condamnait, comme dira l'apôtre Paul, parce qu'elle nous mettait en face de nos incapacités, parce qu'elle éclairait nos incapacités, nos lacunes. Jésus l'a accompli, nous rentrons dans l'œuvre de Jésus. Et à notre tour, nous pouvons en être victorieux. Tu es chargé par ton incapacité à vaincre certaines choses. Viens, Jésus. Viens, Jésus. On peut avoir des années de conversion et être chargé. Viens, Jésus. Approche-toi de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est dans ce contexte-là que cette parole de Jésus a été dite. Conclusion pour terminer. Quelle a été l'origine du pharisianisme? Comment est-il né? Il est né d'un vœu pieux. Il est né d'un moment important. Alors que on se situe environ entre 175 et 163 avant Jésus-Christ. Là, c'est la période dite des Maccabées. là, le peuple commence à être séduit par la culture helléniste, par la culture grecque. Et des hommes se lèvent et disent, eh bien nous, nous serons conformes à la loi, nous pratiquerons la loi. Et ils vont entraîner toute une partie du peuple derrière eux, créant ainsi ce mouvement qui perdurera jusqu'au temps de Jésus, mais qui va dériver. Parfois, prendre le contre-pied de quelque chose, et même souvent, c'est souvent une erreur. Il faut toujours rester bien dans le point d'équilibre. On retrouve tout au long de l'histoire de la chrétienté l'église primitive qui dérive et puis certains petits groupes qui se mettent à part pour vivre une vie de sainteté. C'est pour ça que vont être créés les monastères et que quelques excentricités vont être vues et faites. Certains vont vouloir aller vivre dans des arbres pour se garder du péché. D'autres vont vouloir vivre complètement en reclus de la société pour chercher Dieu. Tout simplement en réaction à l'Église qui finalement décroît et à la qualité de la piété qui s'amoindrit. Que le Seigneur nous aide à garder dans nos cœurs cette liberté devant lui. Oui, les cadres sont nécessaires, mais ils ne sont pas tout. Ils ne sont pas tout. Oui, nous avons nos petites habitudes dans la pratique de notre culte en ce lieu, mais dans la pratique de notre culte personnel, dans notre manière de concevoir la foi. Mais elles ne sont pas tout. Et elles cèdent devant les injonctions du Saint-Esprit et devant ce principe, tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même. D'accord ? Second point, évitons d'être un soufflé. Évitons d'être un soufflé, ça retombera. Et pourvu que ça ne retombe pas devant Dieu. Mieux vaut être un soufflé qui retombe sur la terre. Parce que là, on peut se transformer en publicain et passer par cette conviction de péché, de justice, de jugement, plutôt que d'être un soufflé qui dégonflera devant Dieu. Et troisièmement, si nous sommes chargés par nos errances, chargés par l'accusation de la loi, approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Alors, y a-t-il du pharisianisme en nous ? Un soupçon, une once ? Peut-être. Je n'en sais rien. Chacun répondra pour sa part. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus a bien aimé Nicodème, qui était un pharisien. Et Jésus vous aime. Et il souhaite vous faire pénétrer dans ce monde de la grâce. Et nous faire pénétrer encore plus loin dans ce monde de la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.